Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en français chez Perrin dans une version en deux volumes. Imlay, septembre 1939-mai 1945 constitue la seconde partie de la grande biographie que l'historien Peter Langerich consacre au Reichsführer SS Heinrich Himmler. Ce volume de 672 pages couvre la période allant de l'invasion de la Pologne à la mort de Himmler après son arrestation par les Britanniques en mai 1945. Il s'agit d'une étude historique et biographique fondée sur un vaste ensemble d'archives, de correspondances et de documents administratifs, plutôt que d'un récit romancé des années de guerre. Langerich examine l'apogée du pouvoir de Himmler, son rôle central dans l'appareil policier et concentrationnaire nazi, ainsi que sa responsabilité opérationnelle dans la persécution et l'extermination des Juifs d'Europe. L'ouvrage vise aussi à expliquer un mécanisme de pouvoir, comment un dirigeant apparemment terne, méthodique et ambitieux a converti l'idéologie raciste nazie en institution. Ordre, procédure et dispositif meurtrier à l'échelle continentale. C'est donc autant une biographie qu'une analyse concrète du fonctionnement de la domination nazie en guerre. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, de chef de la SS à centre de gravité du pouvoir policier nazi. Le volume montre que la guerre ne fait pas seulement de Himmler un exécutant majeur du régime, elle élargit constamment ses domaines d'autorité, à la tête de la SS et de la police. Il contrôle des organes dont les fonctions se recouvrent et se renforcent: surveillance politique, répression, administration des camps, colonisation, projeté des territoires conquis et mobilisation de main-d'œuvre concentrationnaire. Langerich analyse cette accumulation comme un processus politique, favorisé par le mode de gouvernement d'Hitler. Celui-ci encourage les rivalités, formule souvent des orientations générales plutôt que des instructions administratives exhaustives et récompense les subordonnés capables d'anticiper ses priorités. Himmler tire profit de cette structure en proposant sans cesse des solutions plus radicales et en cherchant à transformer des objectifs idéologiques en compétences institutionnelles durables. Son influence dépend également de la radicalisation de la guerre, particulièrement à l'Est, où les frontières entre combat militaire, occupation, répression et transformation raciale des territoires sont délibérément abolies. Après l'attentat du 20 juillet 1904 contre Hitler, la méfiance accrue du dictateur contribue encore à renforcer les instruments policiers dirigés par Himmler. Langerich ne présente toutefois pas cette puissance comme un pouvoir cohérent et sans limite, elle est traversée par des concurrences avec l'armée, les autorités civiles, l'industrie et d'autres dignitaires. Cette approche évite de réduire le Troisième Reich à une simple chaîne hiérarchique et éclaire la manière dont Himmler a imposé son influence par l'initiative administrative, la loyauté affichée et la violence organisée. Deuxièmement, la bureaucratie comme instrument de persécution et d'extermination. L'un des apports majeurs de Langerich est de refuser l'image d'un Himmler agissant uniquement sous l'effet d'une fureur idéologique abstraite. L'idéologie raciste est essentielle à son action, mais le livre insiste sur la capacité du chef de la SS à la traduire en mécanisme administratif, identifier des populations, les classer, les déplacer, les surveiller, les soumettre au travail forcé ou les assassiner exige des services, des fichiers, des transports, des responsables locaux et des comptes rendus. Le génocide ne procède donc pas d'un unique acte isolé, il prend forme à travers une succession de décisions, de coordination et d'initiatives dans lesquelles l'appareil SS joue un rôle déterminant. Cette focalisation sur les procédures ne banalise jamais le crime. Au contraire, elle explique comment des politiques de destruction peuvent acquérir une efficacité meurtrière lorsqu'elles sont insérées dans les routines d'un État et dans la division du travail. Himmler apparaît comme un organisateur qui cherche à rendre la violence durable, extensible et administrable sur des territoires immenses. Langerich met ainsi en évidence la part d'agence personnelle du Reichsführer SS. Il ne se contente pas de recevoir les impulsions d'Hitler, mais concourt à leur mise en œuvre, les précise et les pousse vers des formes toujours plus radicales. Pour le lecteur, l'enjeu dépasse la seule personnalité de Himmler. L'ouvrage montre que le langage technique, les compétences de gestion et l'obéissance institutionnelle peuvent devenir des moyens de commettre des crimes de masse lorsque les finalités morales et juridiques sont détruites. Troisièmement, l'invasion de l'Union soviétique et le basculement vers la solution finale. Langerich place l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941. Au cœur de l'accélération génocidaire. La guerre à l'Est est conçue par la direction nazie comme une guerre idéologique et raciale, non comme une campagne militaire ordinaire. Dans ce cadre, les massacres perpétrés derrière le front par les Einsatzgruppen et d'autres forces de police ouvrent une phase de violence de masse contre les Juifs, les responsables communistes réels ou supposés et de nombreuses populations civiles. Le livre éclaire le rôle de Himmler dans l'encadrement de cet univers répressif et dans la conversion de projets antisémites radicaux en politique d'extermination à l'échelle européenne. L'auteur situe la décision de systématiser cette destruction dans le contexte de l'automne 1941, lorsque les succès initiaux de la Wehrmacht semblent rendre possible l'édification d'un empire racial allemand à l'Est. Cette périodisation importe, car elle évite de décrire la Shoah comme le déroulement mécanique d'un programme fixé dans tous ses détails dès 1933. Elle n'atténue pas la continuité de l'antisémitisme nazi. Elle explique plutôt comment une idéologie déjà meurtrière rencontre les occasions, les ressources et les ambitions créées par la guerre de conquête. Himmler se distingue ici comme instigateur opérationnel, il supervise des structures de tuerie, soutient l'extension des politiques de persécution et contribue à faire de l'extermination une tâche administrative prioritaire. L'analyse relie donc les décisions du sommet à leur exécution concrète dans l'Europe occupée, sans dissocier la responsabilité individuelle de la dynamique institutionnelle. Quatrièmement, Camps, travail forcé et contradiction d'une économie de guerre criminelle, le livre ne limite pas l'action de Himmler aux décisions relatives aux meurtres de masse. Il examine aussi le système concentrationnaire comme espace de terreur, de détention, d'exploitation et de destruction. Sous l'effet des besoins de l'économie de guerre, les détenus des camps deviennent une source de main-d'œuvre pour des entreprises et pour l'effort d'artreuement. Cette évolution introduit une tension fondamentale dans la politique SS. Certains acteurs recherchent une exploitation plus longue et plus productive des prisonniers, tandis que la brutalité, la faim, les maladies, les sélections et les conditions de travail continuent de provoquer une mortalité massive. Langerich aide ainsi à comprendre que le travail forcé et l'extermination ne sont ni des réalités entièrement séparées, ni des objectifs toujours parfaitement compatibles. Ils relèvent d'un même ordre racial et coercitif, mais engendrent des arbitrages pratiques, des conflits de compétences et des incohérences destructrices. Himmler cherche à étendre l'emprise de la SS sur cette main-d'œuvre, ce qui renforce à la fois son pouvoir personnel et le rôle économique des camps. L'intérêt de cette perspective est de rappeler que la violence nazie n'est pas seulement produite dans les centres de mise à mort, elle se déploie aussi dans les dispositifs ordinaires de détention, de transport, de discipline et de production. En reliant idéologie, administration concentrationnaire et économie de guerre, Langerich fait ressortir le caractère profondément systémique du crime. Le lecteur voit également pourquoi les calculs utilitaires du régime n'ont jamais constitué un frein moral ou structurel fiable à la persécution, ils ont souvent contribué à l'organiser autrement. En dernier lieu, l'effondrement de 1944-1945, radicalisation, ambition et faillite politique de Himmler. La dernière partie du volume suit Himmler lorsque la puissance apparemment illimitée de la SS se heurte à la défaite militaire du Reich. L'attentat du 20 juillet 1944 donne à Himmler de nouveaux leviers dans la répression et la sécurité intérieure. Mais cette promotion intervient alors que la situation stratégique allemande se dégrade irréversiblement. Langerich souligne ainsi le contraste entre l'extension formelle de ses attributions et l'affaiblissement réel de sa capacité à contrôler les événements. Himmler se révèle incapable de devenir le chef militaire qu'il ambitionne d'être. Ses responsabilités dans le commandement de formations militaires exposent ses insuffisances. Dans le même temps, la poursuite des évacuations de camps, des marches forcées et de la violence contre les détenus démontre que l'effondrement du régime ne met pas spontanément fin à ses crimes. À l'approche de la capitulation, Himmler tente de se ménager une issue politique en cherchant des contacts indirects avec les puissances occidentales, démarche qu'Hitler interprète comme une trahison. Cette séquence finale éclaire la nature de son opportunisme, longtemps présenté comme le serviteur le plus fidèle du Führer. Il reste attaché à la survie de son propre pouvoir et à l'illusion d'un rôle dans l'après-guerre. Sa capture par les Britanniques et son suicide en mai 1945 ferment une trajectoire que Langerich ne psychologise pas à outrance. La chute confirme plutôt les limites d'un pouvoir construit sur la proximité avec Hitler, la prolifération bureaucratique et l'exercice de la terreur. Elle ne diminue en rien la responsabilité centrale de Himmler dans les crimes commis avant et pendant cet effondrement. En conclusion, Himmler septembre 1939, mai 1945 s'adresse d'abord aux lecteurs déjà intéressés par le Troisième Reich, la Shoah, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et les mécanismes institutionnels de la violence d'État. Sa densité documentaire et la place accordée aux structures de pouvoir en font moins une introduction brève qu'un ouvrage de référence exigeant. Les étudiants, enseignants et lecteurs souhaitant dépasser l'image simplifiée d'un monstre isolé y trouveront une analyse utile de l'articulation entre convictions racistes, carrière politique, concurrence administrative et décisions criminelles. Le bénéfice intellectuel principal est de comprendre comment Himmler a joué un rôle personnel décisif sans que cette responsabilité se confonde avec celle d'Hitler, de l'armée, des administrations civiles ou des nombreux exécutants du régime. Langerich éclaire les interactions entre ces acteurs au lieu d'attribuer l'ensemble du processus à une seule volonté abstraite. par rapport à des synthèses générales sur le nazisme ou à des récits centrés uniquement sur les camps. Ce volume se distingue par son attention, suivie à la fabrication administrative du pouvoir SS et à la trajectoire précise de son chef pendant la guerre. Il associe l'étude de la solution finale à celle de la police, du travail forcé, de la guerre à l'Est et de la désagrégation finale du régime. Cette ampleur peut rendre la lecture exigeante. Mais elle constitue aussi sa force, l'ouvrage restitue la complexité des institutions sans diluer la responsabilité de Himmler comme principal organisateur opérationnel de la persécution et de l'extermination. Si vous souhaitez soutenir Peter Langerich, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.